Tranquillement. Vous n'en aviez pas particulièrement besoin. Vous voilà à vous dire, oh, mais je veux me retrouver cet après-midi dans une chapelle, dans une petite église romane, petite maison à Saint-Denis, pour voir. Il y a dans une petite chapelle. Oh, bien, bien. Oui, c'est une idée, pardon. Ça vous est rentré dans la tête par le mystérieux train des pensées. Il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait pas un besoin de ça. Il n'y avait pas d'angoisse en vous. Vous n'alliez pas égoïstement y chercher quelque chose. Non, ça a chanté en vous. Si ça a chanté en vous, c'est bien simple. Je vous en dis la raison. Et sur votre thème, je vous le dirai, puis je vous dirai même le jour quand ça a commencé. C'est qu'à ce moment-là, quand le gardien commence avec sa troisième maison à chatouiller votre neuvième. Maintenant, comme il chatouillait votre neuvième, la douzième a commencé à vibrer. À la quadrature. Alors elle a commencé à vibrer la douzième. Et elle a vibré, elle donnait une musique déjà merveilleuse. Alors vous avez dit, tiens, je vais aller l'entendre. C'est souvent l'ange gardien qui vous amène dans le recueillement. Et qui vous amène dans les états dans lesquels vous dites, moi je cherche le ciel. Non, le ciel vous cherche. Et alors parce qu'il vous cherche, vous le cherchez. Le ciel est toujours le premier. Il est toujours le premier au rendez-vous. Comment pourrions-nous vivre sans ça quand on commence à réfléchir? Comment est-ce qu'on pourrait vivre? Alors je complète maintenant le tableau. Lui-même a trois sortes. Un gardien a lui-même sa croix. Garde à trois, moi j'ai ma croix. En ma croix. En faire mentalement, n'est-ce pas? J'écris des lettres. Voilà. Vous dites, oh, aujourd'hui, ça fait tellement facile de faire des lettres. Ça courut tout seul sur le papier. J'en ai fait tout seul. Je ne pouvais pas pendant des jours écrire des lettres. Non, aujourd'hui, je crois que c'est arrivé, j'ai des yeux affilés. Pas de s'affiler. S'affiler. Je sais bien que ce n'est pas des enseignements que vous donnez. Ce n'est pas la troisième maison. C'était des lettres. C'était de la correspondance, là, gentiment. Bon. Là, vous avez masculin. Votre croix était masculine. C'est votre main, alors ça, je vous prie de voir que c'est masculin. Et alors, c'est votre douce qui était celui qui inspirait la croix. Et ça sortait tout naturellement par la quadrature en émergence psychique de votre âme dans le conscient de la troisième maison. Donc ça courait tout seul et vous avez dit en état de souris quand vous avez écrit ces lettres. Vous ne pouviez pas manœuvrer votre troisième maison sans votre douce. Voilà la loi du carré. Et la douce alors était pas masculine, elle était féminine. Pensez que c'est votre douzième maison qui a un signe dans votre foi. Alors quand on pense qu'on est des êtres, et surtout quand on se pense unique, on peut être meilleur qu'il y a un. Non. Or cette foi, à son tour, peut être féminine. Et si elle est féminine, sa force entre ainsi, et alors elle ne s'en ira pas ici, car c'est dans le sens contraire à l'aiguille du monde. Elle s'en ira là, ensuite. Alors, pour que je puisse employer ça, aucune force féminine, sa force masculine supérieure vienne à mon âme, il faut que celle-ci, alors c'est une force féminine qui vient. C'est une force masculine céleste qui entre dans mon âme à moi et sort. Ah, vous comprenez, pour que mon âme gardien puisse faire ça à moi, il faut que lui-même reçoive de son âme une animation sur sa troisième maison à son tour. Est-ce que c'est compris? Je veux que vous me compreniez, vous suivez ça. Vous suivez ça, madame Bisson? Vous suivez ça, madame? Ah, ben, c'est compliqué, d'accord. Mais vous l'avez saisi. Alors, je ne vous dis plus de quoi. J'ai raconté. J'arrête là. J'arrête là. Notez encore une chose. Je m'arrêterai là. Alors, ce qui est dit maintenant. Vous avez vu ce que je voulais dire. Je vous lance le germe qui n'y avait jamais pensé avant de cette émergence, de la circulation d'énergie psychique. Émergence. 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 que le thème n'est pas un cercle, que le thème n'est pas du rouge, du rouge et des rayons. C'est simplement la simplicité de quelque chose. Il faut toute votre intelligence pour voir tout ça en raison dans toutes les dimensions. Sur ces magnifiques. Et que le génie de l'astrologue, c'est de transposer ce schéma dans les éléments de la vie. Dans le temps, comme dans l'espace. Et quand il dit le temps, il dit l'inconscient collectif. Alors, comment voulez-vous que l'inconscient collectif se manifeste dans l'espace que parle de mouvement? Et le mouvement du temps, il est chiffré. Il est sur la croix. Et pour finir, je dis maintenant ça à l'astrologue praticien, j'attire l'attention sur les quadratures dans les thèmes d'irrégularité. Vous avez quelquefois des thèmes qui ont 60 degrés entre l'ascendant et la 10e maison. Vous avez des thèmes qui ont 120 degrés entre l'ascendant et la 4. Ah, quelle différence thermique de l'émergence. Ça relève. Parce que l'émergence va être plus forte en proportion de l'exactitude de la quadrature. Si vous avez 60 000 degrés entre votre 3 et votre 10e maison, c'est ce que j'ai moi, 60 000 degrés, ça n'est pas 80. Et croyez que je le pense. J'en ai cherché la vérité. Ça n'est pas 90. Autrement dit, l'effort, la précision du coup de marteau, n'est pas le plus compliqué. Voilà pourquoi il est intéressant de voir des thèmes où il y a 120 degrés ou 119 degrés entre première et 4, et donc entre 7. Ou alors vice-versa entre 10 et 15. Parce que nous savons. Il va y avoir une facilitation du courant d'énergie de 1 à 4, de la 4, et ce ne sera pas un vrai carré, que la 4 sera en trigone. Et notez bien que c'est quand même la 4, même si elle sera en carré. Parce que la loi du carré, c'est la loi des signes. C'est ici que toujours, la quatrième maison, c'est la 4, elle a beau être à 119 degrés de la première, elle est en carré d'elle-même, mais ça ne va pas jouer. Ah, énergie. Ça ne sera pas carrément, ça sera une hein, ça sera quelque chose qui coulera avec une certaine façon. Et que ça ne produira pas cet élément de nouvelle naissance. Que seuls les carrés des maisons et les carrés des familles. Voilà. C'est ce soir. Alors, lundi prochain, à l'hôtel pour le groupe, vous pourrez venir, et je vous rappelle que vous ne pouvez pas venir plus de 30. Lundi prochain à l'hôtel, je suis tout prêt à discuter la première partie de la soirée. Ce que vous aurez. Créature de 3 à 6. Ah, mais oui. Si la 6 est féminine pour la. Bon, si la 3 est féminine pour la 6, c'est ça que vous voulez dire. Ah, bah oui, si la 3 est féminine pour la 6, la 6 sera masculine, et alors ce sera vraiment. Conscience que vous avez de la vie de votre corps, si vous voulez l'appeler ainsi. Grand pas de ça, de ton métier, de ta santé. C'est ça, c'est tout ça, pardon. Encore, ce sera bien sûr l'action aussi. Ce sera bien des choses. En tout cas, ce sera le système nerveux sympathique et l'autre, combiné avec les choses. Et n'oubliez pas que la fille à son tour peut être féminine et qu'elle va animer la joue, la. Et vous avez le symbolisme là du sauveur qui est le sagittaire. Parle d'une part à la Mars et à la Vénus qui est Marie. Et que Marie écoute, c'est la 12e maison, elle écoute. Mars ne l'écoute pas. Elle est en train de taper, de tirer sa sœur de l'autre côté. Elle a comme une opposition, vraiment une opposition entre maisons. Et pourtant, le Sagittaire lui répond, Mars, ta sœur à la bonne part. Ça, c'est ça l'idée. Il dit que la croix du calvaire, le scorpion représente le mauvais larron, le poisson représente le bon larron, le sauveur représente le capricorne. Et ici, sur la croix mutable, le sauveur, c'est le sagittaire, le 29e degré du sagittaire. Et Mars, spécifiquement, représente le 29e degré de la Vierge, qui est, au point de vue de la négation du degré, l'apothéose de l'inconséquence. Car les 29e degrés sont l'apothéose. En négatif, ou en positif. Et vous ne trouvez pas merveilleux la Vierge qui est une apothéose inconséquente Puis au moment où les choses sont suprêmement importantes, il dit, j'ai oublié d'enlever les noyaux du foyer. C'est la côté aux inconséquences. Je vais reprendre ça, M. Grèce, avec moi. C'est pas fouillé ce que j'avais dit. C'est avec moi, fouillé. J'ai vu quelqu'un des dessins dans votre vie. Voilà, chers amis, je me fais un grand plaisir de vous avoir retrouvé ce soir. Et de vous revoir, j'espère. Je n'ai pas de mon problème. Comme ça, je ne peux pas voir autrement. Et c'est suivant les choses que j'attrape dans la 9e maison que je vais en fournir à la 2. Alors, il place des antennes en 9e maison. Il fait venir ça par l'électricité à sa 2. Ce sont des choses rapides, la 9e maison. C'est du Sagittaire. Électrique, la 2, la 9e maison. Terre. Alors, voilà, là, en 9. Uranus arrive à la pointe. Ouvre la Vénus, lui ouvre la porte, Vénus par la Vénus, et tu vois. Ah. Voilà maintenant les nuages sont levés, l'horizon est l'horizon même. Ah, c'est la limite, c'est l'horizon. Je te dis, non, c'est bien, quand j'y travaille pour moi. Et il faut bien que j'y travaille, et ça va bien. Bravo, bravo, enchanté, j'étais un petit peu paralysé chez moi, je commence à m'embêter, maintenant je vais sortir. Hey, c'est du même coup. Les fenêtres, ils voient clair. Et Vénus qui n'était pas particulièrement intéressée. Trop, du moment qu'elle était confortable chez elle. Cette fois-ci, elle dit, oh, mais il faut que toutes les fenêtres soient nettoyées à fond, pour qu'on puisse tout partout, les locataires puissent voir tout ça. Alors Marc commence à voir tout ça aussi. Il dit, mais merci, mon propriétaire, c'est bien. Oh, monsieur Merveilleur, ben maintenant, je sais que je m'en vais. Je vais maintenant à inspirer à mes maisons, dont moi, je suis le propriétaire. Il m'a inspiré des horizons que tu m'as ouverts. Je m'ai inspiré des horizons. Alors tout à coup, c'est marqué. Dans la note. C'est arrivé au Mars. Quand il a fait à Mars, il a fait à Vénus. Et tout à coup, la deuxième maison reçoit une nouvelle directive, de la nature uranienne. Une nouvelle directive de la nature uranienne, et parce que l'individu ne regarde plus avec la même qualité de religion sa sécurité. Ce qui est le taureau naturel d'eux, il le voit de très haut. Très haut, et d'une raison, non seulement d'une position qui est amovible, mais je veux dire d'une position pas ébranlable. C'est vraiment accroché. Là. Et s'il touche le Jupiter, c'est la même chose avec le Jupiter. Pour la maison du Sagittaire, où qu'elle soit dans le ciel. Prenons maintenant à la place de Mars et de Neptune, de Mercure et de Jupiter. Prenons ici maintenant, alors la grande combinaison Neptune-Pluton. Il dit tout à l'heure que c'est la maison des standards, la 9e maison. Et tant que c'est dans les Gémeaux, comme c'est cette dame, oui, et c'est les Gémeaux pour la pointe de toute façon, alors on peut s'appliquer tout de suite à ça. Et c'est son Mercure, et cette Mercure dans le Lion, commence cette 9e maison. Bon. Alors, quand l'Uranus a passé là, vous imaginez bien qu'il a passé là. Il a passé là en 1942. Ça pointe en 42, ça va être en 43, ça fait deux fois. Bon, et quand il a passé sur la pointe, il a fait ce que j'ai dit. Quand il passe par les deux mètres, il a fait venir le mien sur là. Donc, si j'en viens au propriétaire de cette une maison dans laquelle les langues de vision de Neptune se trouvent, et l'angle Alors, pour Mercure, il est toujours un pauvre petit, vous comprenez. Donc, à comprendre ce que c'est que Mercure, c'est que le pauvre petit dans le thème. C'est le bébé, c'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est le devenir. Le devenir, il est bien petit, n'est-ce pas, par rapport au passé. Quand le présent tient, le commencement, la mort du futur, semble bien fragile, et pourtant en lui se trouve sa vie. Et en lui est caché une puissance formidable, mais c'est lui. Ce sont très lents. Alors Uranus vient là, il ouvre la porte, et alors il vient au Neptune. Donc c'est forcément, logiquement, allié de Neptune. L'individu possède ce thème, découvre quel est le standard de son avenir, ce à quoi il vise dans cette vie. Puisque sa 9e maison, il découvre ce à quoi il visait dans cette vie. Enfin, Eureka, je comprends ce que je fais dans ce monde. Il faut toujours demander à la 9e maison, en se demandant quoi, qu'est-ce que je fais ici. Demandez au maître de 9 la réponse. Alors il découvre ça. Et l'instant d'après, le Pluton était à 15 minutes. L'instant d'après, il n'était pas long, n'est-ce pas? Rien d'autre Pluton. Alors Pluton lui dit, moi la paix. Alors toi, fiche-moi la paix. Moi, je suis très confortable dans cette maison. Moi aussi, je suis un standard. Moi, je suis l'idée du passé. Toi, tu es l'acquis, moi, je suis le débit. Alors c'est la bataille entre le débit et l'acquis. Le Saturne a quelque chose à faire là-dedans. Qu'est-ce qu'il a à apprendre de Saturne? Qu'est-ce qu'il travaille sur Saturne? Quelquefois, c'est l'Uranus qui normalement est plus fort que le Pluton, parce que forcément, c'est l'acquis, vous comprenez. Quand même, c'est le dépassement. Il y a quand même un moment là où la comptabilité se fait d'une façon serrée. Et pendant ce temps, l'individu souffre intérieurement d'une façon effroyable. Il ne sait pas ce qu'il arrive. Dans sa maison, tantôt il a vu clair, puis tout d'un coup, il ne voit plus clair. C'est la confusion. Parce que, en même temps, ces deux planètes commandent le poisson. Et là, quand ça commande le poisson, naturellement, la maison du poisson, tantôt est prise en main par l'un des propriétaires, puis ensuite par l'autre. Et là, dans le cas de cette femme, elle avait les poissons pour sa maison 10. Elle avait les poissons pour sa maison 10. On aura la paix, oui ou non? J'aurais dû mettre une pancarte dehors sur la porte. Il y a un propriétaire qui était parent. Le propriétaire est parent. Depuis 2 ans, il y a un hôtel, je n'ai jamais vu qu'en partout. Eh bien, c'est très gentil, ils m'ont allé là-bas avec la cassette et leur demander de payer. Alors, rappelez-vous, madame Colino, la fameuse leçon une fois avec vous. Le poisson pour la vie, c'est la 6e maison. Alors, vous imaginez ce que la santé a pris. J'ai pensé ce que la santé a pris, parce que leur fait ça. Il faut, pour les miracles de Lourdes, il faut les poissons pour la 6e maison. C'est le Neptune qui amène les miracles. Il faut que le Neptune soit senti, pour que les poissons, très bien aspectés par le Neptune, soient mis dessus. Comment? Eh, ça a aidé, ça. Ça a aidé. Ça a aidé. Ça a aidé, naturellement, ça a aidé. Mais enfin, toujours est-il que ces deux. Et que le Pluton est fort ici, parce qu'enfin, il a le carré à ceci aussi, n'est-ce pas? Neptune en 6e maison, oui. Et dans nos générations, on l'a là, dans les Gémeaux, dans le Cancer, dans le Lion. Dans la Vierge même. Neptune en 6. Neptune en... Écoutez, là où est Neptune, un élément surnaturel est toujours au travail. Toujours. C'est toujours la transcendance. La transcendance qui joue. Il y a là un élément au-delà des mots. Il y a là un élément insaisissable dans les mesures humaines habituelles. Ça dépasse Saturne lui-même, vous comprenez? Ça le dépasse. Ça le dépasse. Et c'est donc ce qui est inattendu, mais alors en très bien. Donc c'est l'élément
Still not too high. Parce que si au nombre de cas que vous avez, vous avez Neptune en 6. Et si Neptune n'est pas affligé? Écoutez, les gens qui ont Neptune en 6, c'est pourtant bien simple. Les gens qui ont Neptune en 6, quand ils n'ont pas de planète là, et que le maître n'est pas trop affligé, et même quand il l'est, et bien au moment où on croit qu'ils vont crever, les voilà qui seront ressuscités. Mais je connais des cas comme ça. Comment? Oui, on est bien probable. Ah, ça?
Alors,
ben,
ça va très bien,
mais c'est de la vie. Ah, oui, alors ça va dire. Ah, oui, alors là, puis, alors si c'est dans les Gémeaux, c'est naturellement les questions nerveuses. Hein. C'est la désintégration nerveuse dans les Gémeaux. Comment?
Nerveuse.
Ah, tout à fait. La maison 6, c'est ça. La maison 3, la maison 6, ce sont les maisons du système nerveux. Et vous n'avez, peu importe le maître, peu importe le signe, ce sera toujours le système nerveux, seulement sous ce régime-là. Autrement dit, la sixième maison, c'est toujours Mercure. C'est toujours Mercure, enfin, quoi. Vous êtes en train de prendre des notes ce soir. Quel que soit le maître de votre troisième maison, c'est quand même votre Mercure que vous employez. Seulement, vous l'employez avec l'aide de du maître de la maison 3. Et enfin, quoi, vous employez votre Mercure toute la journée, donc toutes les maisons sont pour Mercure. Et toutes les années de travail pour Mercure. Et pourquoi pas, c'est justement pourquoi on est là. Il faut faire grandir notre Mercure, c'est tout ce qui peut grandir de nous-mêmes. Nous sommes ce soleil, nous sommes son enfant, nous sommes ce Mercure, c'est notre propre avenir, c'est l'enfant éternel. Les 12 maisons ressemblent à 12 yeux, n'est-ce pas? C'est 12 yeux qui regardent dehors et le dehors qui regarde dedans. Alors 12 yeux, c'est 12 optiques, c'est donc 12 Mercure. Mais si vous avez des poissons, là, je l'ai vu avec vous, Madame Odino, dans plusieurs cas de votre mari, il y a les poissons pour la sixième maison, ça ne rate jamais, il y a un moment donné où l'allopathie ordinaire ne marche pas du tout, où il leur faut les médecines plus modernes, il leur faut l'homéopathie, il leur faut l'ostéopathie, il leur faut tout, il faut des traitements psychiques, ils ont un corps qui répond à une atmosphère, à un climat, à un milieu. Alors, un milieu les fiche en l'air, sans autre forme de procès, ils ne savent pas pourquoi, et c'est le corps lui-même qui est comme un papier buvard qui prend ça. Et un rien, un changement d'un rien, et puis, c'est autre chose. Et comme c'est du Neptune, il faut que ce soit des doses infinies, des images. Parce que Neptune n'est pas le taureau, il n'est pas Maxime.
Il n'est pas
Maxime.
Il n'est pas
Maxime.
Ça fait
Maxime,
c'est
la Vénus. La Vénus du taureau est bachique. Oui, elle l'est, je sais bien ce que vous voulez dire. Elle est bachique. Oui, elle aime le bon vin, vous voulez dire.
Non, mais
elle aime la terre. Elle aime la terre, mais c'est son devoir. Elle, si elle est bachique, c'est qu'elle a Jupiter à côté d'elle, vous savez. Surtout, oui, elle peut l'avoir. Avec vous, essayez de le mettre de deux, Vénus. Et que c'est du taureau, là. Que le Jupiter est en deux et qu'elle est en 12, elle. Ou en 1, en 11. Et qu'elle s'est carrée, que Jupiter la réclame, elle sera bachique, ça je peux vous le dire, elle sera gourmande. Oui, elle ne s'embêtera pas dans sa maison, hein, je vous réponds, elle ne s'embêtera pas, mais c'est son locataire qui lui dira, ah madame, moi je suis le chat de perte, n'est-ce pas, et j'ai l'honneur, je vous fais l'honneur d'habiter chez vous, alors, n'est-ce pas, vous allez me faire des très grands plats. Oui, monseigneur, dira-t-elle, je serai enchanté de l'honneur de le faire. Voilà ce que fera une deuxième maison qui aura Jupiter comme locataire, carré son propriétaire en 11. Vous avez compris? Mais ça crève les yeux dans la technique d'un thème. Ça, et le raisonnement est clair. Mais pas mal. Ça va de soi.
Vous parlez des maladies en
Ah, voilà la douzième maison. Et tout le sens de la douze qui se développe maintenant. On ne plaisante pas. Le signe sur la 6, le même signe sur la 12, c'est pas la même histoire. La maison domine la situation. Parce qu'après tout, en 6, vous avez d'abord à consulter son maître naturel, qui est Mercure. Ah oui. Ah, Neptune a beau être le maître de 6, mais elle travaille pour qui? Elle travaille pour Mercure, elle travaille pas pour elle-même. Alors que vous avez les Gémeaux pour la 12, le Mercure est maître de 12, accidentellement par la naissance, mais il ne travaille que pour Neptune. C'est la beauté de la chose. Les planètes filent la tapisserie des planètes des maisons dans lesquelles elles se trouvent. Assurément, une Vénus du taureau, maître de 12, maître de 9, nous revenons toujours à la 9 pour ne pas compliquer notre histoire ce soir, nous donner les mots de tête. Voilà le taureau pour la 9, on ne court pas aux horizons en grande vitesse. On les regarde et on l'on dit, j'aime le ciel, j'y crois, mais je ne suis pas pressé d'y arriver. Le taureau des gens est pressé d'arriver nulle part. Il lui suffit de savoir qu'il est sur la bonne route. Il lui suffit de savoir ça. Il ne sera pas longtemps distrait par les bas-côtés, mais je vous prie de croire qu'il broute toute l'herbe qui est droite devant lui. Il se dit, tant que j'avance, ça suffit. Mais si c'est dans le Sagittaire, il y va ventre à terre. C'est toute la différence. Mais enfin, admettez que si Vénus y va en broutant de 10 mètres en 10 mètres, elle avance dans la bonne direction, elle, comme la tortue, elle finira par y arriver. Elle aura augmenté le domaine de Jupiter à la vitesse d'un taureau. Ce sera toujours mieux que rien. Madame Guinbert, vous me suivez un peu dans tout ça, hein? Madame est docteur psychiatre elle-même. Ça ne vous paraît pas trop techniquement différent? Ah ben oui, c'est tout à fait différent, bien entendu, mais je veux dire, vous pouvez suivre, Madame Moudinot, vous en a donné assez d'éléments? Bon. Eh bien voilà, je voulais parler donc, j'ai parlé des maisons vides, j'ai parlé des maîtres naturels. C'est la 10e maison. Vous allez avoir le cancer pour la 10e maison. Comme cette âme d'ailleurs. Ça n'empêche pas que c'est la maison de Saturne pour finir. Et bien que c'est le signe de la planète opposition à lui, si vous avez Saturne pour la 4, c'est quand même la lune, la 4. Quand vous avez, c'est toujours là qu'on va le sentir. Vous avez le Capricorne pour la 4. Bon. Ben, cette dame a le Capricorne pour la 4. Alors vous n'allez pas me dire, oh, elle a, alors Saturne est son maître, alors la 4e n'a pas d'importance, beaucoup d'importance pour elle. Mais c'est toujours la famille, la 4. Mais c'est toujours le foyer, c'est la patrie. Mais c'est la maman, la 4. C'est le berceau, la 4. C'est tous les souvenirs d'enfance, c'est tout ce qu'on a mangé dans son enfance, dont on se souvient toute la vie. C'est les mêmes petits gâteaux du passé. Et ça peut être le Saturne, c'est ça quand même. Seulement, c'est saturnisé. Comprenez-vous? Ça manque de gaieté. C'est du solide, c'est grave, c'est sévère, c'est austère. Et on a une maman austère et sévère, et solide, oh, elle ne court pas la potentaine, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fantaisie. Mais c'est quand même ainsi qu'on sent son foyer, c'est ainsi qu'on sent ses origines. Donc c'est toujours l'élément lunaire, voyez-vous. Parce que vous n'en sortirez jamais. La 4e maison, c'est la maison de du sentir. C'est la maison où les émotions jouent le plus fort. La 4e maison. Quelle que soit. Alors forcément, du moment que c'est Saturne, que son Saturne est en 12, qu'il n'est pas un endroit rigolo pour lui, n'est-ce pas? Et qu'il est encore en carré, puis qu'il est dans la Vierge, ce qui est encore moins rigolo que tout, n'est-ce pas? Vous imaginez bien que les émotions, quand elles pensent à sa vie d'enfant, quand elles pensent à sa famille, quand elles pensent à son passé, ce ne sont pas des émotions qui lui donnent le sourire, n'est-ce pas?
Elle vit avec le passé.
Ah! Vous avez 100 fois raison. Elle vit avec le passé. Alors maintenant, passons tout simplement à ce thème, parce que je pense que l'heure commence à avancer, il ne faut pas vous fatiguer trop. Est-ce que vous vous sentez reposé maintenant, un peu distrait, du tohu-bohu de la journée, comment? Comment? Oh, moi, vous savez, quand une fois que je suis lancé, ça marche. Heureusement, comment?
Et par le jeu de l'opposition sur la croix, de l'opposition dans le thème. Où que soit l'opposition, qu'elle soit 1 et 7, de 1 à 7, ou de 4 à 10, ou de 8 à 2, peu importe, c'est l'opposition. Quand deux planètes se trouvent en signes opposés, et surtout dans les degrés similaires, 8 scorpions, 8 taos, 8 béliers, 8 balances, c'est l'opposition absolue. Lors de l'opposition, incidemment, est une affaire qui en général, peut être toujours considérée valable jusqu'à 8 à 9 degrés. 8 9 degrés. Et quand c'est un stellium, c'est-à-dire quand il y a une autre planète qui, elle, n'est pas directement dans l'opposition, mais qui attire cette force-là, si par exemple il y en a une en opposition, mais il y en a une autre qui est tout près, qui a dépassé l'ordre de 10 degrés, il a dépassé l'ordre de 10 degrés, mais à côté de celle qui est à 8 degrés, ou 7 degrés, enfin 8 degrés, alors il faut quand même compter ça aussi comme partie de l'opposition. Et se dire ceci, que la clé de la signification des aspects, où je n'entre pas là-dedans ce soir, mais se dire que pour juger cette question de l'éventail d'influence qu'on appelle l'ordre de conjonction, ou l'ordre d'aspect, pour juger de l'éventail de jeu de la force, il faut se dire qu'il s'agit là essentiellement d'une question de gravitation. C'est une gravitation. Songez à une force de votre nature que vous appelez le foyer de la foi, le foyer de l'enthousiasme, le foyer des grands élans vers quelque chose qui vous dépasse. Pour ça, il faut toujours Jupiter, c'est le nom de cette puissance en vie. C'est une puissance énorme en elle-même. La planète que ça est, c'est une puissance énorme, c'est Jupiter. Par conséquent, c'est une puissance dans laquelle vous tendez à graviter, périodiquement. Et puis alors, si vous en avez une autre, disons ici alors, aussi de grand poids, Saturne, de très grand poids, le principe de l'équilibre, le principe des proportions, le principe de l'ordonnance de tout ce qui est vivant dans une forme qui assure sa progression régulière et disciplinée. Quand vous avez ce principe-là, Saturne, alors vous comprenez la gravitation d'un côté. Vous êtes là au centre de la croix. N'oubliez jamais que vous, ce que vous appelez vous, essentiellement, vous êtes le centre de la croix. C'est au centre de la croix que l'énergie solaire porte l'ensemble de ce qui est son cheminement. Bon. Alors, vous là, au centre de cette croix, et vous avez là quelque chose qui vous tire d'un côté, très fortement, et l'autre chose qui vous tire tout aussi fortement ici. Et vous balancez entre les deux gravitations. Or maintenant, si vous avez à côté de cette planète ici, une autre qui n'est pas en ordre d'opposition à 8 degrés, néanmoins, elle flirte avec celle en opposition ici. La gravitation de ceci va attirer l'autre dans la zone de la gravitation de cette planète. Par conséquent, si c'est Saturne qui est là, et que Mars se trouve à 3 degrés de Saturne, n'est pas en opposition à Jupiter, vous allez voir que le Mars, il est quand même pris dans l'éventail de la gravitation de Saturne. Voilà pour ce qui s'appellerait l'ordre des conjonctions, l'ordre d'aspect. Mais pour les oppositions, oui, sauf la Lune, sauf le Soleil. Ah, le Soleil toujours, alors carrément allongé jusqu'à 12, c'est le Soleil. Et justement, parce que c'est le Soleil, vous avez bien là la manifestation de la puissance de gravitation, justement, la gravitation. Voilà pourquoi l'ordre pour le Soleil est plus grand. Et puis parce que le Soleil est une puissance très spéciale. Et comme je l'ai dit l'autre jour, il se développe avec la vie. Par conséquent, il tendra à avoir une puissance et une chaleur et une vitalité de plus en plus débordante à mesure que les années avancent. Alors, forcément, il faut de toute façon lui donner, comme après tout c'est le sujet de la sollicitude de tout le thème, il faut lui donner l'ordre convenable. C'est un luminaire, c'est le premier des luminaires dans la tradition astrologique, et on lui donnera 12 degrés, au moins 12 degrés. Et même pour le carré, il faudra aller jusqu'à 12 degrés. Et même pour la conjonction, il faudra aller jusqu'à 12 degrés. Pour le sextile, non. Restons-en à 8. Mais voilà pour ça. La Lune, luminaire également, en tout cas 10. En tout cas 10 pour la Lune. Il y a une ou deux techniques qui servent à visser, à cerner de plus près l'éventail de l'ordre. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce n'est peut-être même pas un sujet pour une conférence publique de ce genre. Alors, c'est vraiment de la technique, ça. Vraiment technique. Ça, ce sont pour des leçons particulières. Alors, je reviens maintenant aux aspects. Et je reviens à l'opposition comme clé de la hiérarchie planétaire. Nous avons comme planète, nous avons le Soleil, dans l'ordre de grandeur, Mercure, Vénus, la Terre, incidemment, la Terre, n'est-ce pas,
Mais ça, nous ne la mettons pas dans le thème. Ah, ça, non, nous sommes la Terre. Le thème, c'est la Terre. Il y a une certaine astrologie qui s'amuse à mettre la Terre dans le thème. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, c'est comme ça. La Terre, c'est nous. C'est tout le thème. C'est nous, la Terre. Nous sommes un degré du degré de la Terre. Nous sommes une partie de son entier. C'est nous, la Terre, c'est nous-mêmes. Bon. Ensuite, il y a Mars, ensuite Jupiter, ensuite Saturne, ensuite Uranus, ensuite Neptune, puis enfin Pluton. Oui. Voilà l'ordre planétaire.
La Lune.
Ah, et puis la Lune, naturellement. Et la Lune, bien entendu. Et la Lune. Bon. Voilà notre série. Donc, la question de la hiérarchie va se poser maintenant. Et ceux qui connaissent le symbolisme planétaire se rendent très bien compte de quel ordre ça doit être. Autrement dit, pour ceux d'entre vous qui ne font que commencer, et de toute façon, pour le principe général de la systématique astrologique, je répète ceci, que dans une opposition, la planète mineure doit complémenter, doit céder à la majeure, et que par conséquent, une opposition Vénus-Mars, dans un certain sens ici, c'est la Vénus qui est la mineure, et c'est Mars qui prend le dessus sur les deux. Dans l'opposition Soleil-Mars, c'est Mars qui prend l'impulsivité qui est dans le Mars, ça va être ça qui va faire sortir le Soleil d'une relative immobilité, ou plus exactement d'une relative inertie, puisqu'il ne dispose pas, le Soleil, de ce levier de marche, par lequel il peut s'engager dans l'inconnu et dans la résistance, qu'on appelle Mars. Car Mars n'est là que pour vous engager à foncer et à enfoncer la résistance de quoi que ce soit. Dans n'importe quel plan. Il n'y avait pas de résistance, il n'y avait pas besoin de Mars. Toute chose, à toute planète, appelle son complémentaire, et si vous voulez, son propre opposé. Il va de soi, et je l'ai dit la dernière fois, que lorsque l'opposition d'une planète quelconque se fait à la Lune, alors la Lune doit toujours céder à l'astre qui appartient au système solaire. Toujours. Parce que la Lune est quoi? La Lune représente psychologiquement la limite de ce que l'être humain peut expérimenter. La limite dans n'importe quel domaine. La frontière de l'expérienceable. Or, l'expérienceable, c'est certainement le champ vital, l'espace vital. Or, la planète, elle, fait partie de l'être solaire. Et la planète s'impose, doit s'imposer à son espace vital. Elle doit s'imposer à cette limite, à ce champ de l'expérience. Ce n'est pas le champ de l'expérience qui doit absorber la planète, autrement alors c'est la folie. Alors c'est littéralement la mère qui dévore son enfant dans son propre sein. C'est l'inversion totale de toute l'intention de l'ordre cosmique. Dans n'importe quel cas, dans l'opposition, j'entends, dans l'opposition, vous avez l'opposition Mercure-Lune, l'opposition Vénus-Lune, l'opposition Mars-Lune, et toute la série, c'est toujours la Lune qui cède. Même avec la petite planète, c'est la Lune qui cède. Si vous avez l'opposition Jupiter-Saturne, c'est Jupiter qui cède. Si vous avez l'opposition Uranus-Saturne, c'est Saturne qui cède. Une opposition très subtile, celle-là. Si vous avez l'opposition Neptune-Uranus, c'est Uranus qui cède. Ici, j'attire l'attention de ceux d'entre vous qui travaillent pas mal d'astrologie et qui étudient beaucoup de thèmes pour s'expliquer, par exemple, leur propre famille et leurs propres amis, que dans l'opposition, je crois qu'on doit considérer plus grave d'avoir la planète mineure à l'ascendant et la planète majeure en opposition au descendant. Il vaudrait mieux l'inverse, autrement dit, j'aime mieux voir un Jupiter en première maison opposition à un Mars en 7 que d'avoir un Mars en première maison opposition à un Jupiter en 7. Ou d'avoir un Uranus en 6 opposition à un Vénus en 12. J'aime mieux avoir Uranus en 12, opposition Vénus en 6. D'avoir la masse, la puissance, de son côté, le côté oriental, première maison, 12e, 2e, 11e, 3e, avoir de son côté les grandes puissances, les grands principes, et d'avoir de l'autre côté les petits principes. Les principes nécessairement, alors ici, relativement secondaires. On a les grands atouts entre les mains. Tandis que si l'inversion se fait, si on a Uranus en 6 contre Vénus en 12,
J'ai connu un thème d'une jeune femme qui s'est suicidée d'ailleurs. Il y a Vénus en le lion en 12, Uranus en le verso en 6, il y avait le Mars en lion en 1, opposition de Jupiter en 7, eh bien, elle avait un cas de narcissisme très prononcé. C'est-à-dire, elle ne voyait que sa propre image dans les autres choses. Et dans toute situation, elle ne voyait jamais la situation, elle voyait son image se reflétant et se renvoyant à elle-même, comme Narcisse dans l'eau, voyait toujours son image, au point que finalement, tellement absorbé par son image, il oubliait de boire. Et finalement, il en est mort. Et bien voilà en bref l'histoire du livre de Narcisse. Et bien, il y a quelque chose de ceci. Lorsque les planètes mineures se trouvent à côté de l'ego dans la première maison, ou tout près de là, et en une des grandes majeures en opposition. Faites très attention que si vous avez par hasard ce qui arrive là de loin en loin, trois ou quatre planètes mineures à l'ascendant, avec trois ou quatre planètes, ça suffit, au descendant, je vous promets que la personne s'en aperçoit, et que les autres aussi. Voilà pour ce genre de position. Maintenant, je crois que j'en ai dit assez pour toucher, pour montrer simplement cette hiérarchie planétaire, que plus on s'éloigne du Soleil, plus la planète, plus cette force qu'elle représente est importante à la vie de la psyché, importante à la vie de la personne, sur tous les plans, sans en être sûr aucun, que c'est absolument capital, et que c'est dans cet ordre de distance du Soleil que les valeurs planétaires grandissent. Ça a été une